Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre « D'endetté à millionnaire », quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95 $, vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support. Bonjour tout le monde, bienvenue au Trio économique. Je sais que la plupart, vous allez l'écouter en différé sur YouTube et tout ça. Mais si on a une humeur de marde, ben c'est qu'on est le 16 décembre quand on le tape. Fait que c'est juste à cause de ça. Puis Vincent, lui, va être de bonne humeur, il est aux États-Unis, fait qu'il vit pas d'une place de Mongole. Fait que on se tente avec ça, on va y aller, on va parler d'économie, on parlera pas de COVID. Ouais. La parenthèse est finie.
Mais peut-être que tout le monde, peut-être que personne n'écoute vu que tout le monde est mort d'Omicron. Fait que si jamais c'est le cas, ben en tout cas, les civilisations futures qui vont tomber là-dessus, on vous plaint. Oh là là.
Vincent, t'es le seul qui vit d'une place équilibrée. Essaie de nous divertir un peu. Là. Sérieux, ça sent.
Je suis pas sûr que j'appellerais ça équilibré les États-Unis. Là. C'est. Écoute.
Viens réessayer le Québec, on s'en reparle.
Écoute, c'est toujours facile d'adorer la place que t'es pas à l'intérieur de. C'est peut-être la meilleure manière de le voir.
Ah, mais pour le fun, tu trouves ça lourd aussi aux States présentement?
Oui, pas mal. Okay. Je trouve ça lourd, en fait, d'être aux États-Unis en termes d'attitude. Les gens sont pas mal agressifs politiquement. D'antagonisme pas mal inutile. Mais en même temps, il y a plein de choses qui vont mieux qu'au Québec. Que ça soit, par exemple, les taux d'impôts plus bas, le coût de la vie qui est quand même beaucoup plus bas pour une multitude de biens et services. La diversité de services est beaucoup plus grande. Il y a des gains incroyables aux États-Unis, mais en même temps, il y a des désavantages. Là.
C'est sûr qu'il n'y a pas une place de parfaite. Là, ça, je pense que tout le monde est au courant.
Écoute, le gazon est toujours plus vert chez le voisin.
En tout cas, ici, les gens dans la crise, ça, je peux te le dire.
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai du gazon, j'ai pas de neige. Il n'a pas encore fait en bas de zéro depuis que je suis arrivé.
Ouais, ça, c'est un fait. Il n'est pas jaune, mon gazon. Il n'est juste pas là.
moi, c'est très vert présentement. J'ai fait une belle petite marche tantôt, pas de manteau. Ah, j'étais bien, là.
Mais vous ne trouvez pas ça lourd, vous autres, avant qu'on rentre dans le sujet là, du jour? Il me semble que, je ne sais pas si c'est de même partout sa boule, là, mais il me semble qu'il n'y a jamais rien de bien. Genre. C'est comme si tout est tout le temps ultra négatif. Moi, pour ce qu'on fait, puis pour toutes sortes d'affaires de ma job et de ma vie, je regarde les nouvelles à tous les jours. Là, je veux dire, OK, il se passe telle affaire. Et quand tu suis ce qui se passe au Québec, c'est comme si il n'y a jamais rien de positif qui arrive. Là, notre bilan environnemental, c'est un désastre, on va tous mourir. La COVID, c'est un désastre. La langue française, c'est un désastre. Tout est toujours. On dirait qu'on vit dans le pire monde de l'histoire humaine. Puis pourtant, tu regardes les chiffres, tu te dis, ben, le bilan de plein d'affaires s'améliore au fil du temps. On a quand même une certaine progression par rapport à plein d'affaires. On ne vit pas dans une place où les gens meurent de faim chaque jour. Mais l'espèce de prisme déformant des médias, là, pour reprendre cette expression-là, c'est comme si t'es toujours martelé d'informations qui te font sentir mal. Comme si, genre, tout va toujours mal. Moi, je trouve ça devient très lourd à long. Là. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui travaillent dans les médias qui virent complètement cinglés à un moment donné. Là. Parce que tu es comme martelé de ça tout le temps. Là. C'est jour après jour. Là, tu regardes un affaire, bon, qui vient de dire quoi? Bon, un tel de tel parti politique. Là, on s'en va dans le mur, puis on va tous mourir à cause des changements climatiques. Bon, une autre affaire. Là, une enseignante qui se fait mettre dehors parce qu'elle porte un voile. Hey, là, c'est telle affaire, puis l'autre qui réagit. C'est constant, jour après jour. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a une lourdeur relative à ça. C'est un climat très lourd. Je sais pas comment c'est aux États-Unis, Vincent, si ça ressemble à ça. Là, mais en tout cas, ici, c'est très lourd.
Ben écoute, c'est pas mal partout pareil, la mentalité de chercher la mauvaise nouvelle. C'est une tentation assez normale, surtout dans les médias, parce que, tu vois, en France, c'est Je veux dire, qu'est-ce qui va aussi bien que de dire que tout va mal, que l'univers s'en va, all's going to hell, all's going to shit, blablabla, blablabla. Bla, bla. Ça va bien plus que mon optimisme à moi ou
il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Hein. C'est ça qui est le plus troublant dans l'histoire, parce que c'est très psychologique. Le ressenti qu'on a. Tu sais, il y a toutes sortes de recherches par rapport à ça, là, au niveau psychologique, mais par exemple, nous autres, dans le monde financier, ce qu'on nous parle souvent, c'est une perte est ressentie 2 à 3 fois plus qu'un gain, de la même ampleur. Là. Donc, les gens deviennent par défaut éventuellement averses au risque à cause de ça. Dans le média, c'est exactement ça. Je veux dire, la bonne nouvelle TVA, la bonne nouvelle General Motors qu'on avait dans le temps, là, ça devait être le moment où est-ce que le monde allait pisser à c'est le bonjour. Il n'y a personne qui écoute ces nouvelles-là pour vrai, puis qui fait « Ah ouais, c'est quand même cool ça, cette affaire-là. » C'est vraiment tout le temps bon. Puis je parlais avec un journaliste très local récemment, j'ai arbitré au hockey avec lui. Il a toujours été dans les médias locaux, ça n'a jamais intéressé d'aller dans les grands médias nationaux. Puis, il fait du fait divers. Puis, il dit, tu sais, Yann, il dit, c'est mes pages à moi, dans le journal qui sont les plus lus. Il dit, d'une manière classique, là, dans les journaux locaux, les faits divers sont plus lus que les sports, contrairement à un journal plus habituel. Il dit, dans l'ordre, là, c'est les faits divers, la nécrologie, les sports, puis après ça, le reste. Il dit, fait que, tu sais, à un moment donné, t'es là, tu dis, calme, passe, tu sais, je veux dire, tu... C'est spécial, pareil, parce qu'un fait divers, là, c'est jamais... on a fait descendre un chat d'un arbre. Là. C'est un accident de char, c'est quelqu'un qui est dans des petites places où, comme lui, c'est surtout des accidents de char. Là. Mais c'est tout le temps savoir, hey, c'est qui a battu sa femme? Là? On a-tu le nom dans l'article? Puis c'est ça qui a le plus de clics tout le temps. Fait que, c'est un peu la nature humaine d'être comme ça. Puis à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, on va essayer de changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien faire.
Non, c'est vrai que je ne suis pas sûr que ça se change nécessairement. Là. Surtout que même si c'est une tentation qu'on a, je pense peut-être un peu tous au fond de soi. Là. Quand tu, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu reçois 4 messages ou tu reçois 10 messages de gens qui disent « Ah, je ne sais pas, M. Sénéchal ou M. Gelozo, j'aime bien ce que vous faites, blablabla. » Puis maintenant, après, tu reçois un message de quelqu'un qui disait « Si tu devrais fermer ta gueule, blablabla. » Puis là, après, on est comme... Tu prends ton char, puis tu vas faire une commission, puis dans ta tête, tu dis...
Ouais, « Salut. »
Peut-être je me suis mal exprimé ou t'as l'affaire. Dans le fond, on accorde beaucoup trop d'importance aux trucs négatifs par rapport aux trucs positifs, mais tu sais, c'est pas un jugement de valeur que je fais, mais plus qu'un constat. J'ai l'impression que c'est comme un peu naturel à l'humain. Là. C'est comme tu vas à l'université, tu as des super bons résultats, tu poches un examen, tu vas avoir tendance à plus focaliser là-dessus que sur les 3 ou 4 autres que tu as eu 90 ou 95 %. Tu vas avoir ton échec, tu vas surévaluer l'importance de ça. Je sais pas, ça participe un peu peut-être de la même affaire. Là.
Il y a peut-être aussi la possibilité, là, je suis vraiment juste en train d'explorer une idée, mais chaque fois que je pense à ça... La petite chose qui traîne dans le fond de ma tête, c'est que certaines personnes se disent c'est peut-être mieux qu'on ait un certain outlook négatif, parce que si tu vois juste le positif, c'est un peu comme contre-évolutionnaire dans le sens que tu ne vas c'est pas fake. Essayer d'améliorer. C'est plus dans le sens comme ça. Si la peur qu'on a comme être humain de perdre quelque chose, de se faire mal ou de se blesser, si on n'avait pas ça de manière révolutionnaire, on aurait comme disparu il y a un bon bout. Parce que oui. Tu te dis, oh, regarde, en général, ça va bien. Alors, je pourrais essayer de mettre ma main sur ce truc-là qui a l'air très chaud, donc je vais me brûler. La réalité, c'est que l'être humain, en étant capable d'imaginer le pire qui peut se produire, peut-être justement réussit à éviter. Des scénarios.
Il n'y a pas de peut-être, ce que tu dis là, ça fait partie de toutes sortes de recherches, là, effectivement. Que tout ce qu'on vient de décrire là vient effectivement de nos instincts plus que quelque chose qui est parfaitement raisonnable.
C'est sûr que le gars qui arrive de la Nouvelle-France avec sa femme, ben avec ses enfants ou sa femme, puis il regarde ça, il fait ouais. Il y a quelqu'un qui me dit que dans 2 mois, là, il va probablement faire moins 20, moins 25. Fait que si je ne construis pas ma maison maintenant, moi et ma famille, on est morts. probablement plus de chances de survivre que celui qui fait « Ouah, ben, tu sais, l'important, c'est d'être heureux aujourd'hui puis de vivre le moment présent. On verra quand le froid arrivera. »
Oui, mais en fait, le petit tweak que je me demande, c'est que si c'est... Parce qu'il y a deux possibilités. C'est que la mentalité de « what could go wrong », que c'est un truc évolutionnaire qu'on a développé pour survivre, c'est parfait. Mais est-ce que ce réflexe-là est aussi pertinent dans une société d'abondance comme celle qu'on est, dans laquelle on est aujourd'hui? Je ne suis pas convaincu parce qu'on a des réflexes qui viennent de l'évolution qui sont peut-être plus autant nécessaires aujourd'hui que dans le passé, mais génétiquement ou biologiquement, on est conditionné pour agir avec ça.
Ça, c'est la partie
qui m'intéresse beaucoup plus. L'explication, je trouve qu'en fait, tu as raison, il y a une littérature là-dessus, puis c'est pas mal clair qu'il y avait une raison pour ces traits-là, ces espèces de règles heuristiques qui se sont transmises à travers les générations. Mais de savoir, est-ce que la transmission mérite qu'on s'en départisse, surtout si on l'a presque imbriqué de manière génétique dans notre fonctionnement, est-ce que ça peut disparaître? Parce que je ne le vois pas comme étant très utile, l'aspect de s'imaginer le pire scénario à chaque situation dans une société où est-ce que le coût d'une erreur aujourd'hui, c'est pas la même chose. Frank, il dit, le gars de la Nouvelle-France, s'il ne faisait pas ce qu'il avait à faire, il mourrait de faim ou il mourrait dehors gelé. Effectivement, mais aujourd'hui, le coût d'une erreur, minime, c'est quoi? C'est pas gigantesque.
Ce serait-tu, j'ai lancé une idée comme ça, mais ce serait-tu ce qu'on est en train d'essayer de faire un peu avec les pharmaceutiques, sans nécessairement avoir un grand succès, là? Mais je veux dire, plus notre société devient confortable, plus l'anxiété apparente est un problème, dans le sens que il y a probablement plus de gens anxieux aussi dans les années 50-60, là, mais je veux dire, on ne considérait pas ça vraiment, les troubles mentaux, des choses comme ça. Maintenant, c'est plus open, on en parle plus facile d'avoir une consultation, un arrêt de travail, peu importe. Mais aujourd'hui, l'anxiété est très présente dans les diagnostics et également aussi très traitée par du médical, des médicaments notamment. Ce serait-tu ça qu'on essaie de faire un peu avec la gestion de l'anxiété, de dire, ben voici quelque chose qui est fondamental au code génétique de l'être humain, donc une peur démesurée ou des choses comme ça, sauf que dans une société confortable, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement utile. Donc, pour essayer de contrôler ces peurs-là, on va utiliser des médicaments pour diminuer cette anxiété-là chez certaines personnes. Ça peut être ça qu'on essaie de faire sans trop s'en rendre compte d'une certaine façon.
Franchement, je suis un peu sceptique de cette explication. Vraiment, tu as raison sur un truc. Il y a des gens, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un journaliste qui m'avait posé la question quand on parlait de la productivité puis du temps de travail, puis j'expliquais que les gens travaillaient de moins en moins de nos jours, puis c'était le résultat du fait qu'on était devenus si riches qu'on peut se permettre autant de loisirs. Puis lui, il dit « Oui, mais regarde, les taux de dépression augmentent, etc., etc. » Puis il répondait plein d'affaires de ce type-là. Puis j'ai dit « Non, je ne suis pas convaincu par exemple, que les taux de dépression augmentent parce que c'est les taux de dépression tels que rapportés aux gens, mais le pourcentage de gens qui avaient des dépressions qu'ils ne rapportaient juste pas
exact.
Au fin du 19e siècle devait être super élevé. Donc, je ne suis pas mal sûr qu'on a juste un mauvais baseline du point de départ. Surtout que maintenant, il n'y a plus de stigmate associé à des maladies mentales ou à des problèmes de fonctionnement cognitif. On voit en fait l'idée que...
Mais d'un point de vue actuariel, Vincent, le data a changé énormément entre les années 90, 2000 et 2010. Les tables de morbidité utilisées en assurance invalidité tiennent beaucoup plus compte des possibilités d'arrêt de travail liés à des troubles mentaux présentement qu'au début des années 90. Puis la raison pourquoi les tables de morbidité en tiennent compte, ben c'est parce qu'avant ça, il n'y avait pas de data. Personne ne prenait d'arrêt de travail pour une dépression. Aujourd'hui, tu as plus tendance à le faire.
Oui, mais tu sais, sans poser de jugement de valeur, je ne sais pas quel autre mot employer que celui-là, là. Mais il y a une époque aussi où les gens n'avaient pas du tout, c'est un peu dans le sens de ce que Vincent disait, ils n'avaient pas le luxe de vivre ces problèmes-là au grand jour. Tu sais, quand je reprends l'exemple du gars qui arrive de la Nouvelle-France, est-ce qu'à cette époque-là,
Il arrive en Nouvelle-France.
Est-ce qu'à cette époque-là, les gens, ça n'existait pas des problèmes genre de dysphorie de genre? quelqu'un dans sa tête qui ne sait pas trop à quelle identité. Ça existait très probablement. Ça n'a pas apparu par magie dans l'histoire humaine, ce truc-là. Par contre, la hiérarchie des problèmes auxquels tu as à faire face, n'importe quel être humain, d'un point de vue de survie, va faire « ouais ». Peut-être que j'y vis ça à l'intérieur de moi, mais là, ma principale préoccupation, là, c'est que je vais mourir si je ne construis pas une maison, puis que je coupe pas du bois pour pouvoir me chauffer. Puis, tu sais, même on le voit dans les pays défavorisés. Là. J'avais vu une enquête un moment où il disait, par exemple, que quand tu vas dans des pays émergents ou des pays en voie de développement d'Afrique, quand tu sondes les femmes là-bas, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, là, les syndromes prémenstruels, ces trucs-là. Ils disent pas vivre ce genre de trucs-là. À mon avis, ils vivent. C'est juste qu'ils ont des problèmes tellement plus importants comme l'accès à l'eau, la mortalité infantile, ce genre de trucs-là, qu'ils ne s'en préoccupent pas. Il y a un peu ce qu'on disait avec les gens dans certains pays d'Afrique. Ah, là-bas, le COVID, ça ne les dérange pas. C'est pas que ça ne les dérange pas, c'est qu'ils ont peut-être 25 autres maladies duquel ils peuvent mourir qui sont plus graves.
Ouais. Il y a aussi le fait qu'il faut considérer un peu l'évolution des maladies mentales. Bon, là, on vire un petit peu plus loin de où est-ce qu'on était allé, mais c'est un classique. les gens pensent que, en fait, parce que j'ai des articles scientifiques sur les maladies mentales, donc sur l'économie, en fait, des maladies mentales. J'en ai deux, j'en ai un troisième que je suis en train d'écrire. Premièrement, il faut comprendre que pendant très longtemps, on avait la perception que des maladies mentales, c'était des problèmes permanents. Aucun traitement était possible, donc des trucs extrêmes comme des lobotomies, des électrochocs, l'électrochoc est encore utilisé aujourd'hui, ouais. Là, parce que les gens vont penser à Alice Robbie comme le classique québécois d'électrochoc, mais c'est encore utilisé aujourd'hui dans des contextes beaucoup plus restreints, mais c'est encore utilisé. Mais tu avais des pratiques que tu disais, puisqu'on ne peut rien faire pour cette personne-là, on va faire des choses un peu plus extrêmes pour minimiser le danger qu'il pose pour la société. Puis quand on regarde les vieux textes, on parlait des classes défectives. Alors qu'aujourd'hui, on est conscient que même des gens qui disent avoir des maladies mentales répondent aux incitations. Parce que ça, c'est le bon test de savoir si la différence entre une maladie mentale ou une contrainte qui est plus difficile à gérer avec. Parce que si c'est une contrainte qui est plus difficile à gérer avec, ça veut dire... Ben, une contrainte, c'est plus dans le sens que
tu n'es pas fonctionnel en société.
Ben, imagine comme ça. Les gens qui disent que les maladies mentales, c'est un truc permanent, ça veut dire que ces gens-là ne répondent pas aux incitations. C'est-à-dire que si tu changes le bénéfice ou le coût de faire quelque chose, cette personne-là ne va pas réagir. L'idée de la maladie mentale comme étant un problème que les gens ont, mais qui peut être géré, donc que tu peux répondre aux incitations, c'est que tu as une contrainte avec laquelle tu dois composer, qui rend certains choix plus difficiles. Mais si on t'apprend à réduire les coûts, à de mieux les gérer ou réduire le coût de certains bons choix, de réorganiser tes actions ou tes routines de manière justement à créer une stabilité, ben tu permets à la personne justement de gérer son problème qui lui vient avec, mais ça devient, dans ce cas-ci, ce qu'on appelle une réponse. C'est-à-dire que la personne est capable de répondre aux incitations. De nos jours, la plupart des gens qui ont des problèmes tant lourds que des problèmes plus légers vont consulter parce qu'ils sont conscients que c'est pas plaisant d'avoir une maladie mentale, mais c'est pas une fatalité. Il y a des manières de gérer ça. Mais l'idée que tant que tu dis ça peut gérer, que tu peux prendre des médicaments, que tu peux consulter des psychologues, d'avoir des suivis, des gestions des sources anxiogènes, tous ces éléments-là, ça vient du fait qu'on a enlevé la stigmate sur ce qu'on appelle, je déteste le mot maladie mentale parce que ça enclenche bien des choses, mais par exemple, Winston Churchill lui-même disait qu'il était un dépressif naturel, qu'il était très dépressif même, il appelait ça son « black dog », c'était commun chez les gens, mais lui n'en parlait pas publiquement, il en parlait uniquement à un cercle très restreint d'amis. Mais de nos jours, un politicien, même des politiciens, peuvent en parler de difficultés qu'ils ont eues ou d'addictions qu'ils ont eues pour des addictions qui ont développé pour gérer des problèmes. C'est juste par exemple.
De toute façon, on voit le nez de certains politiciens.
Oui, mais regarde, juste la semaine passée aux États-Unis, comment elle s'appelle? Billie Eilish. Qui n'est pas une super bonne chanteuse, mais elle est sortie publiquement en disant, je pense que c'était au show d'Howard Stern, qu'elle avait une addiction à la pornographie depuis qu'elle avait comme 12, 13 ans. Et que ça, c'était pour gérer d'autres problèmes qu'elle avait, qu'elle avait développé une addiction à ça.
Quand même spécial, avouer ça pour une fille.
Oui, mais tu sais, imagine-toi, il y a 50 ans, même actrice, même chanteuse, même tout, imagine si elle avait annoncé une addiction. Bon, ben, fin de carrière, ça lui aurait coûté très cher. Le fait qu'aujourd'hui, on est conscient que c'est des problèmes que les gens ont, que c'est...
Ça humanise.
Ça humanise, mais ça montre aussi que c'est pas une fatalité, c'est quelque chose que les gens peuvent composer avec, peuvent apprendre à gérer. Fait que quand j'entends des journalistes, quand j'avais eu cette question du journaliste qui m'avait dit ben, « ça augmente sans cesse », j'ai dit « ça a l'air d'augmenter sans cesse parce que ce n'est plus un tabou que d'avoir, d'essayer de comprendre les difficultés qu'on a comme personne à gérer des émotions, à gérer des conditions neuropsychologiques, des neurobiologiques. Et ça montre aussi, puis en même temps, ça te montre à quel point la psychiatrie, d'ailleurs, a évolué d'énormément de contrôle au début du 20e siècle, où est-ce que la coercition était la règle. Alors qu'aujourd'hui, bon, on a des cas de coercition en psychiatrie, parce qu'il y a des cas extrêmes, là, comme des gens qui sont absolument violents, qui sont une menace à autrui et à eux-mêmes. Donc là, il y a une justification pour certaines formes de coercition, mais en général, la coercition, la tendance en psychiatrie, c'est de s'éloigner de la coercition parce qu'on est conscient que c'est très souvent des comportements qui sont gérables avec des suivis, avec soit des médicaments dans certains cas plus extrêmes, mais des fois, des trucs aussi légers que parler à un psychologue une fois par semaine ou d'avoir des services en ligne. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y en a aux États-Unis comme betterhelp.com que tu peux rencontrer par Zoom un psychologue pour parler, pour faire du sens de tes émotions, pour faire face de certaines conditions que tu as, de gérer des sources anxiogènes. On est conscient qu'il existe des troubles obsessifs compulsifs. Tout ça, le fait que maintenant, on est capable d'en parler, ça montre aussi qu'on est maintenant conscient que c'est quelque chose qu'on peut contrôler individuellement. Fait que, tu sais, je mettrais ça de côté, là, cette espèce d'idée-là qu'on est otage à soi-même. Non, on a beaucoup plus de contrôle sur nos vies que ce qu'on réalise. Puis je pense que, maintenant, pour revenir à ce que Yann disait, qu'on a fait une grosse écartade là-dessus, je pense que les médicaments, la consommation de médicaments, dans certains cas, je ne suis pas comme Russell Brand. En fait, je suis très favorable à la consommation de médicaments pour justement contrôler certains aspects de nos vies, la gestion des humeurs. Mais parfois, ça peut être aussi simple que la meilleure performance. Donc, écoute, dans le monde académique, le nombre de chercheurs que je sais qui prennent des substances qui sont « brain enhancing », puis qui sont conscients du coût que ça apporte sur leur santé, soit dit en passant, là, parce qu'ils savent, là, ils ne sont pas niaiseux. Mais
ils se font grossir le cerveau pour vrai, là, comme le monde qui se font grossir, tu sais quoi?
Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais je sais de quoi tu parles pour le grossir, là, tu sais quoi, mais je ne parle pas de grossir le cerveau, je parle de...
Non, je sais, je niaise.
Non, mais par exemple, je sais qu'il y a de la consommation encore de LSD qui se fait dans les universités.
Mais ça, c'est... Hey, c'est...
Ça, la morphine aussi pendant longtemps.
Ça a l'air d'un... Le LSD, sérieusement, là, c'est-tu réellement quelque chose qui peut améliorer les capacités intellectuelles d'une personne?
Non.
Ça a l'air d'un gros mythe, je trouve, cette affaire-là.
Mais qui... avant le LSD, tu sais, c'était quoi qui avait ce mythe-là? C'était la coke. Et Sigmund Freud a écrit une partie de son œuvre défoncée sur la coke, là. C'était, il y avait un, puis avant ça, c'était l'opium. René Descartes a écrit des affaires sur l'opium. il y a toujours eu cette recherche-là de substances altérant la conscience. Avant ça, c'était si tu remontes bien loin dans le temps, les druides et les chamans prenaient des champignons magiques. Il y a toujours eu cette espèce de patente-là, mais de l'aveu même de Freud vers la fin de sa carrière. Il disait, quand je relis les trucs que j'ai écrits sur l'influence de la cocaïne, je me rends compte que je me croyais vraiment brillant quand je les écrivais. Fait que finalement, un coup que tu es à jeun, c'est peut-être moins intelligent que ce que tu penses.
Pendant que tu parlais de ça, j'ai cherché, il y avait une étude que j'avais lue via Reason Magazine, qui est le magazine des libertariens aux États-Unis. Puis c'était écrit par Jacob Solomon qui rapportait un article dans, je viens de le trouver, là, The Journal of Nervous and Mental Disease, qui avait fait la première étude en presque 40 ans sur le LSD. Donc, il faut comprendre qu'il n'y avait pas eu énormément de recherches sur le LSD après les années 70, genre très, très peu, presque zéro. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été faite. Puis là, je ne me souviens pas des résultats, fait que je suis en train de les lire littéralement pendant qu'on se parle là, avec vous. Première étude en 40 ans dans un des top journaux de la profession. Deux psychiatres en Suisse y ont administré sur un groupe de 12 personnes avec des maladies terminales une dose de 200 microgrammes de LSD à 8 des 12 participants. Les autres ont reçu un dixième, donc 20 microgrammes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est, je cherche la chose, positive effect persisted a year later. These results indicate that when administered safely in a methodologically rigorous, medically supervised psychotherapeutic setting, LSD can reduce anxiety. Donc, il a l'air d'avoir des bénéfices qui viennent de ça. Par contre, je regarde la liste des bénéfices qu'ils mentionnent. Ils n'ont pas l'air de parler de la performance
ça serait surprenant de toute façon, on s'entend.
Non, ça me surprendrait, mais l'idée qu'il y a des gens qui consomment certaines choses en étant conscients des inconvénients, c'est très élevé. Mais en même temps, ça revient un peu à moi. On avait parlé de ça avec l'alcool. J'avais dit, tu sais, par exemple, c'est vrai que l'alcool réduit ton espérance de vie, il n'y a aucun doute. Mais l'affaire, c'est que l'alcool aussi te permet d'augmenter ton revenu si tu vas dans des événements sociaux, que tu connectes avec des gens, et ton revenu augmente ta santé en général. Donc, il y a un effet ambigu. En fait, le truc que j'aime le plus enseigner, ça fuck mes étudiants à chaque fois, je leur dis, techniquement, les pesticides peuvent réduire le cancer.
Ouais, tu n'as pas une couple de fois.
Puis chaque fois, mes étudiants sont comme, ben non. Je dis, ouais, effectivement, mais en laboratoire, tu vas en laboratoire, tu fais des enquêtes contrôlées, puis en laboratoire, tu vas trouver que les pesticides causent le cancer. Mais si les pesticides réduisent le prix de la nourriture, de telle sorte que la quantité de nourriture consommée a un effet de santé supérieur à l'effet négatif cancérinogène des pesticides, au net, un bénéfice. En fait, dans un cas comme ça, un cancérinogène et anti-cancérinogène. C'est tout à fait possible si tu tiens compte des réponses behaviorales des gens. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à fait possible que ce qu'on pourrait juger des comportements détrimentaux, comme par exemple des gens qui disent « Mais regarde, prendre tous ces médicaments-là pour contrôler X ou Y, ça a tel effet sur ta psychologie maintenant ou le fonctionnement de ton cerveau maintenant. » Là, ça serait genre le Russell Brand, le gars qui est le plus anti-pharmaceutique présentement, là, qui est le plus connu, le chanteur. Il est chanteur, right, Russell? Oui, il est chanteur. Je ne sais pas si c'était acteur ou chanteur, mais anyways, un des artistes qui aime ça se prolonger sur des choses qu'il ne comprend pas tant que ça. C'est tout à fait possible. C'est
juste lui qui fait ça.
Il y a juste lui, il est le seul.
Oui, c'est le seul.
Mais dans un cas comme ça, c'est tout à fait possible que c'est vrai que peut-être qu'il y a des méfaits pour de la perspective du court terme pour certaines personnes qui consomment des médicaments qui réduisent, par exemple, des antipsychotiques, par exemple. Mais c'est possible que l'effet de long terme est tel que, par exemple, une meilleure stabilité de vie, la capacité de former des relations avec des partenaires plus facilement, de maintenir une vie familiale, d'avoir un réseau de support qui t'aide beaucoup plus parce que tu es plus facile à être avec. Peut-être qu'au net, ça t'améliore ta vie sur d'autres dimensions dans le long terme. Fait qu'il faut toujours faire un peu attention à ça. En tout cas, ça a fait le tour de mon propos. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était des trucs de psychologie, là.
Mais tu sais, de toute façon, ben, en terminant là-dessus, en général, quand les gens pointent du doigt les médicaments, ce qui pointe du doigt en réalité, c'est l'usage que les humains font des médicaments. T'sais, par exemple, ils vont dire « Ouais, mais là, ça n'a pas de sens. Tel médecin, il me prescrit ça, puis même pas de suivi, puis même pas rien. » Ben, dans le fond, ce que tu décris, c'est la négligence de ton médecin. C'est pas le médicament, le problème.
Et voilà. Ouais, il y a ça aussi, parce que ça aussi, c'est un maudit bon point, là. Mais la question, c'est à quel point il y a une connexion entre les chercheurs et les gens que tu pourrais appeler les gens sur le terrain. Les médecins, quand tu regardes ce qu'ils font au quotidien, ils consultent une grande quantité d'articles scientifiques. En fait, quand ils ont des cas qui ne sont pas clairs, ils vont toujours voir les case studies. Donc, tu sais, s'ils voient un patient qui présente des symptômes vraiment étranges, premier réflexe, tu vas voir la littérature récente.
Ils n'appellent pas Dr. Rouse?
Non.
Okay.
Non, parce que la réponse, c'est « it's lupus ».
Non, mais pour ça, quand tu regardes la vitesse à laquelle, la plupart des journaux académiques ont comme deux ou trois volumes, ont un volume par année avec deux ou trois ou quatre numéros. Je pense qu'en médecine, ils ont plus que deux numéros par mois. Ce qui dit à quelle vitesse la recherche doit se faire sur les case studies puis tout ça, que tu dois publier énormément dans ce domaine-là. Juste.
Ah, parce qu'il y a du vrai cash d'impliquer, tu sais, je veux dire, je ne vais pas être plate avec les études en économie, là, mais je veux dire, fais une bien belle découverte demain matin. C'est qui va réellement bénéficier d'une manière profitable sur le plancher des vaches? C'est la raison pourquoi la finance behavioral finance, en anglais, la finance comportementale, est aussi bien financée. Les économistes qui jouent dans ce département-là ont accès à des capitaux facilement parce que sur le plancher des vaches, l'argent est là. Il y a du cash. Je veux dire. Quand tu arrives et tu dis que Maurice Duplessis, c'est un bon premier ministre, il n'y a personne qui a le goût de te payer, Vincent.
C'est pas ça que j'ai dit, mais écoute, mettons ça de côté. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Mais pour la première partie de ce que tu as dit, je suis absolument d'accord. Parce que l'affaire, c'est que quand tu as généralement des sommes importantes en jeu, tu as quand même des incitations assez fortes.
Oui.
Assez fortes pour corriger des erreurs.
D'où le financement des changements climatiques qui amène beaucoup de recherches sur les changements climatiques. Les recherches sur les médicaments, ce que tu disais, les avancées technologiques, c'est tellement une grosse industrie, la santé, que c'est parfaitement logique de voir des journaux de médecine être publiés aussi souvent avec autant de recherches.
Yep. C'est exactement ça.
T'es le parent pauvre des universitaires.
Moi, oui, absolument. Absolument. La seule raison que je suis embauché dans une université, c'est parce que je dois enseigner à certaines des personnes qui sont beaucoup plus utiles que moi plus tard.
Ah là là. Mais c'est correct de même. Là. Ça prend...
Mais au moins, je ne suis pas député.
Oui, c'est ça.
Comme ça, je le vois. Quand je me dis à quel point je suis utile, je me rappelle que je pourrais être élu à l'Assemblée nationale. Puis là, je me sens mieux comme personne.
Ah, mais c'est pas inutile quand même. C'est pas inutile. C'est juste plus difficile d'avoir du financement pour votre gamme de recherche. On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne études des enfants, les assurances vie, assurances invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.
Ah, OK, je pensais que tu disais qu'un politicien, c'était pas inutile. J'étais là. Je sais pas de quoi tu parles.
Non, je parlais de toi. Tu n'es pas inutile, franchement. Là.
Ah, merci, j'apprécie, Yann. Ça me sentait tellement mieux.
Mais tu sais, pourtant, Vincent, toi qui aimes la science, tu aimerais ça être en politique parce que ces gens-là, ils sont des gens qui sont près de la science, ils écoutent toujours le savoir des experts puis ils ne lui font jamais un enfant dans le dos. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, c'est ce que j'ai compris des derniers mois. Je suis pas cynique du tout là, hein, pour les gens qui n'ont pas compris. Là.
Non, c'est pas
mon genre pareil.
Non, mais moi aussi, je pense qu'en fait, ce qu'il nous faut, là, c'est que je sois nommé scientifique en chef et premier ministre simultanément. Et je vous promets, comme scientifique, de ne rien faire. Tout ce que je veux, c'est que vous me donniez tous 1% de votre revenu, puis je m'en tiens à ça. C'est tout. C'est juste ça que je demande. Moi, je pense que ça c'est la meilleure gestion scientifique.
Quelqu'un qui me dirait qu'il veut se faire élire en disant « Pendant les 4 prochaines années, je vous promets de ne rien faire. »
Moi, je vote direct pour lui. Hein.
Moi aussi. S'il y a mon vote, c'est sûr.
Je me forcerai pour aller voter.
Fais même pas de réforme. Change-les même pas le système. Fais juste pas y toucher.
Non, mais c'est pas pire, ça. Les gens pensent que c'est mauvais, ça, mais il y a un article super connu en économie qui a fait gagner un prix Nobel à 2 personnes.
C'est en vente en Belgique, sûrement.
Non. C'est,
non, parce qu'il y avait eu un parlement qui a eu lieu pendant plusieurs mois.
Ah oui, ça serait un bon exemple de ce que je t'avais de dire. Okay. Le propos de ces gars-là, le papier s'appelait, mon Dieu, là, je vais le trouver. Mon Dieu, c'était Kidlin and Prescott. C'est quoi le nom?
Bonne mémoire, pareil, le gars, hein?
Faut oh, oui, ben ça, il y a une bonne mémoire de ses affaires. J'ai lu un article il y a 5 ans, ça parlait de ça. moi, je me suis souvent posé la question, si on refaisait, mettons, on remonte l'histoire, puis on prend, je sais pas, ce que les politiciens ont fait dans les 4-5 dernières années, et qu'on regarde les décisions qu'on prises, puis on fait juste lancer un 25 cents dans les airs. Pile, on fait une chose, face, on fait l'autre, et on essaie de compiler, voir lequel des deux produits. Tu sais, mettons qu'on pouvait, là, je comprends que c'est un exercice de pensée, là, mais est-ce que le politicien moyen bat le hasard? Moi, mon intuition, c'est que la réponse est non.
Non.
Moi, je pense qu'il fait pire que le hasard, même.
Effectivement. Puis, en fait, l'article que j'ai, là, je l'ai trouvé, puis je vais revenir aux singes puis aux politiciens. l'article, ça s'appelle Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. C'est dans Journal of Political Economy, 1977. Puis le point des auteurs, c'est que même une mauvaise règle, si elle est stable, les gens sont capables de planifier autour. Donc, ouais. Avec des attentes, même que tu as une certaine quantité d'incertitude, avec des attentes plus ou moins rationnelles, donc les gens sont capables d'être un peu forward-looking, puis de prévoir dans leur comportement présent ce qui va se passer, ce qui s'attend dans l'avenir, tu peux avoir un changement, une mauvaise règle qui n'est pas trop mauvaise, mais qui est constante, est supérieure à une variation constante dans des petites règles, dans des bonnes règles.
100% d'accord.
Ça a l'air contre-intuitif, mais l'idée, c'est que les gens sont capables...
Est-ce que les gens s'adaptent?
Les gens s'adaptent, mais ça se voit, en fait, juste dans la finance. Si la Banque centrale dit « on va avoir 2% d'inflation, puis c'est that's it, that's all, 2% d'inflation dans le long terme », les gens vont planifier autour de ça. Ça pourrait être 4%, soit dit en passant. Ça pourrait être 2,5. Ça pourrait être 1,5.
Mais ça date des années 90, parce que ça a tout changé, ça, maintenant. C'est plus ça.
Cet article-là, le Rules Rather Than Discretion, c'était le gros article en économie dans les années 70. Ça a vraiment cassé plusieurs affaires. Et l'idée, c'est vraiment que les gens sont capables de... Les gens préfèrent la stabilité à la discrétion.
Oui.
Puis,
on a moins de sentiments d'injustice, je te dirais, quand ça change trop souvent. Tu sais, je pense que je n'ai pas parlé encore du ticket Airbnb que j'ai
pris. Mais ça peut être encore plus simple que ça. C'est parce que tu peux faire des plans autour de la règle. Tandis que si à chaque fois qu'il y a un changement de règle, parce que ça, c'est vraiment important. Si à chaque fois qu'il y a un changement de règle, puis ton plan de production que tu as fait devient plus bon, toutes les ressources que tu as dépensées s'en vont par la fenêtre. Il faut que tu recommences tout à partir de scratch.
Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, l'impossibilité de prévoir une action, c'est extrêmement anxiogène. C'est quand tu projettes dans le temps, puis là, tu dis, bon, je vais faire ça, mon entreprise, on va faire telle affaire. Mais imaginons que tu es dans un contexte, je ne sais pas, là, j'imagine de quoi être complètement fictif, que le gouvernement, mettons, il fait des conférences de presse à tout bout de champ, puis il change les règles du jeu. Mais là, ta capacité de t'adapter aux événements qui se produisent...
C'est un exemple fictif, ça?
Ben oui, c'est un exemple fictif. Personne ne comprend de quoi je parle.
Non,
mais c'est pour que ce soit quand même actuel. J'écoute ça dans plusieurs années. C'est ça qui crée, je trouve, une insatisfaction qui est palpable, puis une anxiété qui est palpable, parce que peu importe c'est quoi la règle, même si c'est super débile, à un moment donné, tu peux y être opposé, puis à un moment donné, tu fais comme, bon, OK, regarde, c'est ça la règle, je vais composer avec. je vais vivre avec le temps que cette règle-là est là. Mais si je te dis, ben, je mets la règle, j'enlève la règle, je mets la règle, j'enlève la règle, je la change, je la modifie, je la mets, je l'enlève, là, maintenant, tu es comme toujours en train de changer. Ouais, c'est ça. Tu es comme toujours en train de changer tes plans, de changer tes affaires. Puis je ne sais pas pour tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'est extrêmement anxiogène, ce genre de truc-là.
Ah, ça l'est. Puis moi, je vais ramener ça aussi dans mon expérience en finance. En fait, je suis persuadé qu'une des raisons pourquoi je vais toujours avoir une capacité à faire de l'argent facilement dans mon milieu, c'est les changements de règles ultra fréquents dans le monde financier. Puis pourquoi je dis ça, c'est que les changements de règles, non pas les règles, mais les changements de règles deviennent une barrière à l'entrée de mon milieu. J'ai une grande capacité d'adaptation. Ça a toujours été mon cas. C'est ce qui fait que j'ai un degré de performance dans ma vie ou dans la gestion de mon entreprise. Ce qui fait que plus ces règles-là changent, je vais plus souvent qu'autrement être du côté des gagnants que des perdants. Parce que je vais me botter le cul, je vais la lire, je vais comprendre c'est quoi ça implique, je vais adapter l'entreprise rapidement, je vais faire des changements vite pour justement être capable d'éliminer ça de mon esprit puis passer à autre chose. Alors que la plupart des gens perdent beaucoup de temps pour la contester, signer des pétitions, être dans le déni, ne pas lire les choses qui leur permettent de rester au courant, ne pas être assez avancé côté technologique pour s'adapter plus facilement à ces changements de règles-là. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs courtiers un peu plus vieux qui décident d'abandonner peut-être 2-3 ans avant le temps. Donc, ils vont vendre leur clientèle moins cher à cause de ça. Ça fait en sorte que des jeunes qui commencent dans l'industrie préfèrent aller avec un employeur qui va leur dire quoi faire plutôt que de partir à leur compte. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que... Puis l'industrie financière est hallucinante pour les changements de règles. Là. Vous n'avez pas idée comment c'est sans arrêt. Puis même, il y a tellement beaucoup de changements de règles que même il y a plusieurs changements qui sont proposés, ça devient carrément ridicule. Mais ils les proposent, puis ils les font, puis ils les implantent. Fait que rendu là, c'est à nous autres à s'adapter. Puis à tous les changements de règles qu'on a eus, j'ai jamais trouvé ça si pire, m'adapter, mais c'est parce que j'ai cette personnalité-là. Par contre, quand je parle aux autres courtiers de l'industrie, c'est tout le temps la fin du monde à toutes les fois qu'il y a un changement de règle. Fait que tu sais, c'est niaiseux, mais moi, de par la personnalité que j'ai, je chiale pas, c'est ce qui me permet de faire de l'argent facilement. Mais ça, si on se met maintenant dans la peau du client, c'est une autre affaire. Hein? Parce que le client, il commence à avoir de plus en plus de difficultés à trouver des services autonomes parce que c'est quoi qui arrive? Les conseillers, ils disent, ben là, ouais, t'as 50 000 à placer. Ah, oh. Prends des gars de 100 000 minimum. 50 000, là, trop de règles pour rien. Trop dur, là, ouvrir un compte. Ça vaut pas la peine. C'est ça qui arrive. Si vous pensez que ça n'arrive pas, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Présentement, les clients plus petits, puis tu sais, c'est qui les clients plus petits? La corrélation entre l'actif que tu as sous gestion puis ton âge est très élevée. Fait que c'est les plus jeunes clients qui ont de la difficulté à trouver des conseillers. Nous autres, on les accepte, les jeunes clients, pareil, même s'ils n'ont pas beaucoup d'actifs sous gestion.
Ils vont être clients chez toi bien plus longtemps que les autres.
Exact. On s'est compté sous longtemps, mais c'est surtout qu'on s'adapte tout le temps à ces règles-là super facilement. La seule affaire, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est quoi qui va limiter ma capacité de croissance avec le nombre de conseillers que j'ai dans mon équipe? Parfait. Là, j'essaie de recruter cet ensuite. Oups, pas capable de recruter. Tu sais, tous ceux-là que tu essayes un peu, tout ça, il y a une banque qui est en arrière qui offre un salaire garanti de 60 000 puis ils sautent dessus. Fait que t'es là, tu te dis, ouais, OK, c'est vers là qu'on s'en va. Moi, ça me dérange pas. Je vais en faire de l'argent pareil. Mais le consommateur, il est de moins en moins bien servi. Fait que tu sais, là, t'es là, quand t'arrives et tu te dis au gouvernement, vous changez tellement les règles souvent, ça implique des coûts pour les consommateurs. Ah ouais, quel coût? Vous envoyez une facture au consommateur à chaque fois qu'il y a un changement de règles? Non, c'est pas ça.
Non, ils comprennent pas.
Comme si un coût, c'était juste une facture. Il faut vraiment être idiot à répondre à un truc dans le même.
Exactement. Le coût dans ce cas-ci, c'est de ne pas être capable de trouver un conseiller qui va t'aider au début de ta vie financière, tant aussi longtemps que tu n'auras pas 100 000 d'actifs, mettons. C'est ça, le coût. C'est un coût qui est très grand parce que, je veux dire, il faut que tu aies 100 000 pour commencer à être capable de parler à quelqu'un qui va t'aider à enligner tes affaires comme du monde. Tu penses à la quantité d'erreurs que tu peux faire avant? C'est hallucinant, là. Ou bien non, si tu ne fais pas d'erreur, la quantité de temps que tu vas avoir investi.
Puis dans ce cas-là, le coût, il est vraiment subtil parce que c'est toutes les activités que tu te... Parce que si tu sais que ça s'en vient, ces coups-là, ou que c'est toutes les activités que tu te prives. Puis tu me fais penser, en fait, je vais chercher... j'ai un article que je veux trouver là, sur... mon Dieu, c'était sur les coûts de la réglementation, puis le chiffre était vraiment incroyable. C'est sorti il y a une couple d'années, ça avait fait un super scandale chez les économistes.
C'est probablement sous-estimé. Je ne sais même pas c'est quoi tu vas dire comme chiffre, là. Je suis sûr que c'est sous-estimé.
Ah, moi, mais, même chose que toi, je suis vraiment convaincu de que ce que je t'avais de te dire, là, c'est je sous-estime le coût de la croissance.
Parce que moi, j'ai vraiment pour mon dire, puis je pense que c'est ça qui nous différencie un peu de bien du monde. Moi, dans le fond, quand j'arrive, puis je vois les choses que j'aime pas dans la société, puis que je pense qu'on devrait changer, c'est pas parce que j'ai l'impression de souffrir, ou ben non, que ma vie est vraiment plus merdique qu'il y a 10 ans. C'est pas vrai. C'est parce que je suis capable d'envisager dans quel monde on serait capable de vivre. Comment on pourrait vivre dans quelque chose d'encore plus productif, d'encore plus confortable, d'encore plus riche, d'en faire bénéficier plus de gens aussi. Pas juste une élite, mais vraiment d'agrandir le cercle de gens qui ont accès à ce niveau de confort-là. C'est ça qu'on envisage dans notre tête. Tu sais, quand on parle d'un système de santé efficace, ben, ce qu'on voit, c'est comment on pourrait faire mieux. Fait que c'est pas une rengaine comme de quoi qu'on souffre, c'est une rengaine comme de quoi on a tout le temps un sentiment qu'on n'accomplit pas ce qu'on devrait accomplir comme nation ou comme peuple. Puis les solutions qu'on propose, c'est toujours vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, parce qu'on sait que c'est ça les recettes gagnantes pour que ça fonctionne. Mais la chose qu'on va se faire répondre, pourquoi tu chiales? Et Québec a un meilleur taux de chômage que l'Ontario.
Mais écoute, si c'était ça la réponse, je ne vais pas être plate, mais les Noirs américains, avant la Grande Dépression, avant la Grande Dépression, avaient un taux de chômage inférieur aux Blancs américains. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient si mieux que ça en termes de conditions de vie. Là.
Je pense pas, non.
Si tu veux faire cet argument-là, faut que tu es prêt à avaler cette balle-là, OK, go for it. Mais si c'est ça ton point, tu es vraiment... Go. Aval, je vais te donner des points pour cohérence, mais taux de chômage, tu peux avoir des taux de chômage dans... En fait, meilleur exemple que ça. Au 19e siècle, le taux de chômage dans l'agriculture, c'était 2%.
Je vais prendre un exemple plus extrême que toi. En URSS, le taux de chômage, c'était zéro.
Effectivement.
T'es obligé de travailler. Ça va super bien. Bon, OK, tu donnes le papier de toilette à l'entrée de l'aéroport.
Dans mise à jour économique cette semaine, Chrystia Freeland, en réponse à Pierre Poilievre dans une commission, elle lui a dit que tout va bien. Regardez le taux d'épargne des Canadiens. Le taux d'épargne des Canadiens est à la hausse. Sacrément.
Ouais, mais
as-tu vu tout l'argent que tu nous as garoché par la tête?
C'est ça que j'allais dire, parce que ça ne veut pas dire grand-chose présentement, le taux d'épargne, surtout que...
T'as tellement lancé de cash dans notre direction que je me suis senti comme une effeuilleuse pendant un an et demi. Là.
Non, mais
c'est la Freeland School of Economics. Il faut s'en rappeler.
Non, on va arrêter d'en créer des School of Economics parce que Martine, je vais laisser son monopole.
Elle n'aime pas la concurrence, Martine.
Non, Martine n'aime pas la concurrence. Fait qu'on va laisser, son...
Bon, ben, on se rappelle que le marché de l'hydroélectricité ontarien, c'est ça le libéralisme. Fait que...
Oui, absolument. Absolument. Là, j'ai perdu le fil. Yann m'a vraiment complètement... Oui, en fait, c'est tout à fait normal que le taux d'épargne soit à la hausse. Ça fit avec ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. C'est que quand le gouvernement te dit qu'il taxe, maintenant qu'il dépense comme un malade, qu'il fait des gros déficits, tu sais que dans les périodes subséquentes, les taux d'impôt vont devoir augmenter. Fait que ça veut dire que ta richesse dans les périodes subséquentes va baisser. Tu épargnes plus maintenant pour justement tenir compte de la taxation additionnelle dans l'avenir, pour pas que ta richesse soit trop taxé, en fait, pour que tu te retrouves avec une position financière nette plus ou moins la même.
Ça, c'est au niveau global, c'est pas au niveau individuel, parce que tout le monde sait qu'il y a des voisins qui ont acheté des gros skidoo ou des gros pick-up avec le cash.
Probablement, mais
il y a aussi d'autres personnes qui ont surépargné.
Exactement, il y a des gens qui ont mis plus de côté parce qu'ils savent que ça va s'en venir ou qu'ils ont des plans particuliers avec leurs impôts. niveaux. Ça a besoin d'être individuel. En fait, le mécanisme n'a même pas besoin de marcher parfaitement parce qu'il y a un gros débat. Puis, je ne suis pas un macro, là. Rappelle-toi, je suis un gars de micro puis j'haïs vraiment la macro en général. Je trouve que c'est vraiment le domaine le plus plate en économie parce que c'est pas important ici, là. Mais même s'il y a un débat entre les gens sur l'ampleur d'équivalence ricardienne, il n'y a personne qui pense qu'elle n'existe pas. Parce que ça voudrait dire, si tu dis qu'elle n'existe pas, ça veut dire que les gens ne sont pas capables de penser 2 minutes dans l'avenir. Puis, c'est pas vrai. Les gens sont capables de penser 2 minutes dans l'avenir. Il y en a peut-être alors, que.
Sauf ceux qui font de la politique. Là.
Non, même ouais, eux sont capables de penser à l'avenir. Mais c'est juste que l'avenir optimal est beaucoup plus proche que le nôtre.
Ouais.
Mais j'ai trouvé l'article là, en passant sur la réglementation. C'est...
L'avenir optimal d'un politicien, c'est sa dette avec sa secrétaire le soir.
Ouais.
Okay. On parle de Claude Deschamps. Là.
Non.
Okay. Voici. Fait que, le gars, ce qu'il a fait, l'article, c'est qu'il a pris le nombre
de pages. T'as des potins que je connais pas, hein, tu m'intrigues.
Mais tu connaissais c'était ton député, Claude Béchard, tu connaissais toutes les histoires, tout le monde en parlait. C'était même dans les médias.
Pas tout.
Qui avait dumpé sa femme pour son attaché de presse?
J'étais pas au courant.
OK, c'était ça l'histoire.
Non, mais c'est une pratique courante, là, même si des fois ça se fait domper sa femme pour une ministre aussi.
C'était dans les médias, là. C'est pas du
potin. Je me rappelle même pas de ça, c'est spécial.
Non, mais il est mort il y a longtemps. Là,
non, ouais, je sais
pas. Ça fait une décennie et demie, mais lui, c'est l'exemple. Il était ministre de la famille, par contre, c'est ça la partie qui est un peu plus comique de l'histoire.
Ah, ça aussi, ça arrive souvent.
Oui, le ministre de la famille qui est. Ouais. Le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, les nombres de pages dans le Federal Register, donc l'équivalent de la Gazette du Québec, donc le code réglementaire. Puis ce qu'il a trouvé, c'est que la réduction, c'est en réduisant les activités potentielles des entreprises, le PIB des États-Unis aurait été 54 trillions en anglais, trillions, au lieu de 15,1 en 2000.
54 000 milliards, dans le fond.
54 000 milliards au lieu de 15 000 milliards. Ça veut dire que ton PIB est à peu près 70 % plus bas que ce qui aurait été autrement si tu n'avais pas eu la croissance de la réglementation observée entre 1949 et 2005.
Lui, c'est sûr que le gars qui a fait cette recherche-là, il s'est fait challenger par tout le monde.
L'article qui est sorti juste après le sien, parce qu'il y en a un autre, parce que je ne me rappelais pas lequel était lequel, qui est sorti par un gars de Harvard qui est vraiment bien connu puis qui est super bien vu chez les économistes, Simeon Jankov, il a trouvé la même proportion.
Puis il ne s'était pas parlé.
Il s'était même pas parlé. Même proportion. À peu près, ton taux de croissance, disons, s'il est 3 en moyenne, il aurait pu être de 5.
Bien, je le crois. Honnêtement, je le crois parce que on a de la croissance économique malgré le gouvernement. C'est ça qu'on s'entête à essayer de faire comprendre aux gens. C'est pas le gouvernement qui a créé notre croissance économique. T'entends tous les politiciens dire hey, le gouvernement vient d'annoncer une croissance économique de 2,5 %. Merci Justin Trudeau, merci François Legault. Non, non. On a fait 2,5 malgré ces clowns-là.
Ah ouais, c'est ça.
Ben écoute, même là, même si tu dis ça, puis je suis vraiment super sceptique du rôle des joueurs parce que il y a des gens qui disent hey, regarde, si on a une idée, quelqu'un de droite super important. Puis il y a des articles qui ont essayé de tester, comme par exemple aux États-Unis.
Reagan.
Premièrement, quand on regarde, il y a zéro corrélation entre l'idéologie des partis au pouvoir et les politiques budgétaires.
Zone, totalement vrai. Ben, nommez-moi le dernier politicien qui a payé de la dette. Bon, il y a eu Harper un peu au Canada pendant 2 ans. Et il en a refait tout de suite après, là.
L'autre avant, c'était Jean Chrétien, puis au Québec,
ouais,
c'était...
j'allais dire Paul Martin.
L'autre au Québec, c'était Bernard Landry.
Bernard Landry avec Lucien, ouais.
Non, Bernard Landry, quand il était PM, il payait encore la dette.
Ça, c'est du 2001, ça veut dire?
Écoute, je suis pas mal sûr que si... Je sais que sur l'ensemble du règne péquiste, écoute, je l'ai donné à côté de moi, là, je peux les trouver. Dans l'ensemble du règne péquiste, les dépenses de l'État ont comme baissé de 20 %. Dans les 2 années de...
vive les péquistes!
Non, mais tu sais, ça t'en dit beaucoup. Mais dans les 2 années...
Travaille pas, ce monde-là, qui aille travailler.
Travailler!
C'est ça, le problème, c'est tout le monde, ça travaille pas.
On a un cours du roi Péto, ici, là.
Vous aurez le temps de dormir quand vous serez mort.
Hey, ça, c'était malade, pareil, à Lucien Bouchard qui se faisait poivrer par Amir Kadir en commission parlementaire. Est-ce que c'est devenu la mode là, dans cette institution là, de s'adresser aux gens et de leur faire des procès d'intention? On est dans la cour du roi Péto ici? De quel droit qu'il me parle de même, ce gars-là? Il est en dehors de ses pompes, lui-là. Là.
Sur l'imitation, j'ai vraiment de la... Je ne sais pas comment tu fais par des imitations de moi, Frank. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas quoi dire pour vrai. Là. Je suis vraiment sur le cul. Écoute, j'ai les dépenses publiques en pourcentage du PIB.
Frank, après sa maîtrise en philosophie, il cherche des nouvelles façons de faire de l'argent.
OK, ouais,
c'est ça.
Il y a le podcasting, puis là, il s'en va vers l'imitation tranquillement, pas vite. Okay. Il pense qu'André-Philippe Gagnon prend sa retraite bientôt.
Ouais, c'est ça.
OK, fait que le règne des péquistes de 1994 à 2003... L'État est passé de 24,5% du PIB à son plus bas, c'était 22.
OK, c'est en proportion.
Oui. Fait que tu as baissé à peu près à 20%. Le pic, c'était quand Bouchard, la dernière année de Bouchard. Fait que l'État a remué à peu près relativement à l'économie de 10%. Mais sous Landry, ça a augmenté. Mais tu sais, quand je dis ça a augmenté, c'est 2001, quand il prend le pouvoir, 22,23. 2002, 22,26. 2003, 22,34.
Là, on est à quoi, à 35?
Oui, ça, c'est les dépenses publiques. Mais la dette, par contre, si je regarde la dette en pourcentage du PIB, a baissé dans toutes les années de Landry. Dette nette et dette brute.
Mais ils n'ont jamais baissé en termes nominaux, par contre.
Non, mais tu ne peux pas baisser une dette en termes nominaux.
Ben, Harper l'avait fait. Harper l'avait fait.
Oui, tu peux, mais il faut que le gouvernement rachète des obligations. Généralement, 80% du temps, la dette publique diminue par deux mécanismes, l'inflation ou la croissance qui augmente de telle sorte que le relative liability a baissé. Ceux qui
Quand je l'ai dit, là, vraiment diminuer la dette, je me rappelle très bien de Flaherty avec ses chèques. Ça avait duré 2 ans. Il a tout scrappé en 2008, évidemment.
Ça pas. Mais en gros, ici, écoute, le dernier politicien qui a baissé la dette au Québec, apparemment.
Maurice?
Maurice l'a baissé.
Il n'avait pas quasiment.
En fait, c'est pas vrai. La plus basse dette de l'histoire du Québec, c'est avec Maurice. Mais même une dette nette, tu avais 2 % C'était 2 % du PIB.
C'était
mais
tout la dette petit l'État. Brute... Hein?
Oui. Ouais. Mais quand même, il faut souligner, Duplessis, là, quand il a repris le pouvoir en 1944, la dette brute du secteur public, c'était 13 % Quand il est mort, c'était 5 %
Good job, Maurice.
4,8, excuse-moi. Je regarde des chiffres. Là. Maurice Duplessis il a quand même réduit la dette publique. Puis la dette nette, la chute est encore plus intense. La dette nette était à 10, c'est tombé à
1,97. Good job.
Il faut quand même lui donner ça au bonhomme. Là. Il a fait tout un job de réduction des dépenses publiques.
On s'en va dans le champ de rette encore, là, puis c'est pas grave. Tu sais, Maurice, là, il y a toutes ces histoires de corruption. Tu sais, on a attaqué la grande noirceur, tout ça, avec des histoires de corruption. Quand tu regardes un peu le maire de Laval, si je ne me trompe pas, Corriveau, hein, ça se peut-tu?
Vaillancourt.
Le gars, c'est un tout croche. Mais...
Il était le frère d'un de mes profs à l'Université de Montréal.
le gars, c'est un solide tout croche, mais quand tu parles aux gens de Laval, là, il n'était pas choqué pantoute de sa gestion. Là. Puis il n'est pas laissé une ville endettée tellement. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, as-tu un lien? Genre, un politicien qui a beaucoup de facilité à tomber dans les affaires louches et pas nécessairement un politicien qui endette beaucoup sa population.
Ben écoute, mon père a ses affaires à Laval. Puis ça fait, mon Dieu, combien d'années que le gars il a perdu sa job comme maire?
C'est un 7-8 ans minimum. Là.
Ouais, c'est pas longtemps après l'histoire de la commission Charbonneau, me semble.
Ouais, c'est ça.
Mon père parle encore de lui.
Il l'aimait.
Puis il y a des gens à Laval qui parlent encore de lui en vraiment bien. Pas pour. Écoute, honnêtement, c'est un politicien comme n'importe quel autre, mais à la marge, si t'es pour en choisir un qui te demande juste de graisser sa patte et qui te laisse tranquille. Pour moi, le choix est assez clair. Là. Je veux dire,
Ouais, c'est
plate, mais ça revient à ce qu'on disait, une mauvaise règle qui est stable est supérieure à des variations constantes dans les règles, même si les règles qui sont proposées ne sont pas atroces. Parce que l'article que je mentionnais tantôt, c'était même une règle qui est optimale, mais que tu changes, parce que disons que le contexte change, tu changes la règle optimale, ça serait mieux de garder une mauvaise règle constante qui n'est pas parfaite, à toujours essayer de faire la règle parfaite. C'était vraiment, quand ces gars-là ont fait cet article-là, c'était vraiment révolutionnaire. Ça voulait dire comme...
Arrêtez de toucher à vos patentes.
Arrêtez d'empêcher les gens de faire des plans. Point barre. Si tu essaies de les empêcher de faire des plans, tu vas juste tout...
Démotive.
Mais tu sais, quand tu parlais tout à l'heure...
Les gens vont s'ajuster sur des mauvaises marches. Ouais.
Et quand tu parlais tout à l'heure, Vincent, de l'exemple du PQ, là, la fin aussi, puis le lien entre l'idéologie et les finances... Parce que la fin aussi, c'est qu'on regarde le PQ de cette époque-là avec ce qui est un peu devenu aujourd'hui. Là. À l'époque de Bernard Landry, c'était pas encore il n'y avait pas encore l'idée de faire une fusion avec Amir Kadir et
Manon Massé. Il faut quand même être honnête. Le vrai PQ de Bernard Landry, c'est la CAQ. Tu sais, je veux dire, la cochonnerie qui s'appelle encore Parti québécois, c'est pas le Parti québécois. C'est... Le Parti québécois de Bernard Landry, de Lucien Bouchard, c'est François Legault qui le dirige aujourd'hui. Là.
Oui, mais tu sais, à l'époque, là, c'était Bernard Landry qui faisait la promotion du libre-échange. Il faut se rappeler de ce détail-là. Là. Aujourd'hui, ils sont tous rendus protectionnistes. Tu sais, quand tu ramènes ça, tu fais « Ah oui, dans le temps, les libéraux étaient contre et Landry était pour. » Ça, c'est quand même malade, là, sur l'accord de libre-échange. Juste se rappeler ça. Parce que, comme quoi, les libéraux, ça fait quand même assez longtemps qu'ils déshonorent le nom de leur parti. Là. Fait que ça, c'est quand même...
Il n'y a rien... Écoute, je ne suis pas fan des théories des entrepreneurs qui vendent des produits de scrap comme les vendeurs de soeurs usagées, mais le Parti libéral, c'est pour moi comme le vendeur de soeurs usagées qui prend une... Est-ce que... Bon, je ne sais pas les auditeurs, mais y'a-t-il qui ont déjà vu le film Mathilda?
Le père... Mathilda, hey boy, t'es né. Le film de Noël, toi. T'as pogné ça sur Pornhub, tes affaires, ou t'es sérieux?
Non, c'est un film pour enfants,
ouais,
des années enfants. 90. Ah, okay. Puis c'est avec Danny DeVito puis Maya Wilson. Puis en gros, Danny DeVito, il joue un vendeur de sort usagé, mais vraiment un crotté. Là. Puis la manière qu'il réussit à revamper des citrons, là, des vrais citrons, une des choses qu'il fait, c'est qu'il prend une drill. Il la connecte dans l'odomètre, mais il la met en renversement, la drill. Ça fait reculer l'odomètre. Puis, quand je pense au Parti libéral...
Vieux classique.
C'est à ça que je pense. Je pense à Danny DeVito, qui prend la drill, qui la met à reverse, qui la colle sur l'odomètre, qui la branche dans l'odomètre. Puis, hey, les chiffres reviennent. Regarde, elle a moins de 1000 âges. C'est ça, le Parti libéral, pour moi, au Québec. C'est, regarde, je te vends du libéralisme. Tu regardes l'odomètre, puis il est écrit, « Ah, wow, beaucoup de libéralisme. » Là, tu réalises que non, en réalité, ce char-là, c'est absolument pas un char libéral. C'est pas un char libéral. Ça n'a rien rapport avec ce qu'il dit que c'est. C'est que de la fraude et de la mauvaise représentation aux consommateurs.
Hey, mais on vit quoi au Québec, Vincent? T'sais, sérieusement, tu vas t'en ennuyer, là, mais François Legault, présentement, sa stratégie est réellement de positionner sa vraie opposition comme étant GND. Là. Puis. Tu sais, c'est quand même assez spécial quand tu y penses un peu. Tu dis, la CAQ a décidé que son réel adversaire, c'était QS. Parce que c'est l'avantage du premier ministre. C'est toi qui identifies l'adversaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques semaines. Puis là, tu dis, attends un peu, on va vraiment vivre dans cette dualité-là pour les prochaines années au Québec. Là. CAQ-QS, parce que les deux autres, ils sont mêlés bien. Là.
Ben écoute, moi, ça me fait pas triper pantoute cette stratégie-là.
Non.
Parce que.
Ben
parce
que
puis là, je vais citer la personne qui me rend le plus mal à l'aise en France, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et les deux personnes qui me rendent le plus mal à l'aise, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Puis le gros débat qu'il y a, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon a créé la candidature d'Éric Zemmour en débattant avec lui, super, vraiment avant qu'il soit formellement candidat? Il l'a comme crédibilisé en le normalisant, en lui donnant comme l'idée que, parce que même s'il est à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme une figure respectable.
Bon, mais en France, il y a un climat différent d'ici. En France, en France, il y a des gens qui sont élus sous l'étiquette Parti communiste.
Oui, mais en même temps, Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon, quand tu l'écoutes, il dit des niaiseries, mais il ne dit pas des choses racistes. T'sais, il n'est pas un personnage extrémiste. Puis le débat qu'il y a présentement, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon a normalisé et crédibilisé Éric Zemmour en acceptant de débattre avec lui? Je pense que c'était à TF1 ou peu importe quoi, une des grandes chaînes de télévision françaises. Mais j'ai l'impression que François Legault est en train de faire exactement la même chose avec Québec solidaire. Québec solidaire, ce n'est pas de la gauche social-démocrate. Ce n'est pas de la gauche...
Du communisme.
Dans le programme, c'est écrit noir sur blanc que le but, c'est de dépasser le capitalisme. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Mais,
ça, c'est du verbiage. Là, parce que
non, je comprends, là, mais...
Mais quand tu regardes les politiques qu'ils ont, ce n'est pas de la gauche social-démocrate à la suédoise, à la
Bernard-Landry.
C'est de la gauche qui est plus à gauche que ce qu'on réalise. Là. C'est pas les éléments de Québec solidaire. Pour moi, puis là, tu sais que je ne suis pas un fan non plus du Parti conservateur. Là. J'ai toujours dit qu'entre un centre-gauche et un centre-droit, depuis à peu près 5-6 ans, je m'en contrefous. Parce qu'à l'intérieur d'une démocratie libérale, les différences entre les deux sont triviales. Tu parles des partis de droite qui font des bonnes choses, des partis de droite qui font des mauvaises choses, puis en moyenne avec les partis de gauche qui font des bonnes choses et des partis de gauche qui font des mauvaises choses, ça s'équivalent probablement autour de zéro. Mais les extrêmes de tous les types devraient être minimisés. Québec solidaire, pour moi, là, puis quand eux, ils se prétendent être nobles, puis tout ça, je ne vois pas de différence entre Québec solidaire et Maxime Bernier. Pour vrai, là, je ne vois aucune différence psychologique entre les deux. Les deux se voient comme des victimes d'un système oppresseur, or qu'il n'y en a pas, qui inventent des ennemis partout. À Québec solidaire, on s'invente des capitalistes qui sont sortis de partout pour nous exploiter.
Regarde, je l'ai, l'extrait du programme. Là, je peux vous le lire. Ça va sûrement intéresser les auditeurs. On peut dire que c'est rien que des formules de style puis que jamais ils vont faire ça, mais c'est quand même
écrit noir sur blanc. Avant que tu fasses ça, je vais juste dire salut à tout le monde. Je vais aller chercher mon fils à l'école. Il a dû oublier de quoi encore. Vive le fait d'être papa.
Ah, salut. Ouais. Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gelozo, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, francphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis.